S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut chanter avec moi? Demande un peu à maman. C'est avec joie que je vais vous partager la parole de Dieu. C'est avec joie que je souhaite et que je demande au Seigneur de vous éclairer pour qu'il vous enrichisse de sa grâce. J'ai une immense confiance dans ce que le Seigneur fait dans vos esprits, dans vos âmes et dans votre vie. Je demande à Dieu, au nom de Jésus, que vous abondiez en amour pour Dieu, en amour pour les frères et les sœurs, en amour pour vos ennemis, en amour en toutes circonstances. Si vous avez une maladie, vous avez des ennuis d'argent, des ennuis de voiture, rendez grâce à Dieu, dites merci à Dieu. Vous verrez, les choses vont aller beaucoup mieux après. C'est un grand mystère. Mais Dieu demande qu'on lui dise merci en toutes circonstances. Paul l'a dit, rendez grâce en toutes circonstances, en tout temps. Voilà. Alors, bonjour à vous. Je ne peux pas citer les noms de tous ceux qui sont là, mais je vous aime. Sachez-le bien. Je rappelle d'abord, avant de commencer, l'objectif de ce que nous avions appelé depuis 2007, la maison de prière. L'objectif, c'était d'avoir un bâtiment, il est à 15 mètres de la France, un bâtiment à la portée des villages français, de la circulation française, pour les Français, comme le directeur de l'Institut me l'avait demandé à l'époque, quand j'ai fini, en 93, l'Institut. Et c'était une demande très difficile pour moi à accepter, parce que je connais la région, et elle est très difficile. Il est très difficile d'amener les âmes à Christ. Mais voilà, j'ai préféré obéir et accepter ce qu'on me demandait. Et moi, dans la foulée, en priant, j'ai trouvé que cet ancien café-restaurant convenait bien pour toutes sortes de choses. Et nous sommes deux, trois encore à croire que ça peut se faire si Dieu le veut. D'abord dans cette maison, bien sûr, la salle de culte, mais sans être ostentatoirement un endroit religieux, c'est d'abord un endroit convivial, un endroit de rencontre, un endroit d'amitié, d'écoute, d'entraide, et à chaque dimanche, un endroit où on peut prier ensemble. Et nous avons appelé ça maison de vie et de prière. Comme tous les lieux de culte en Russie s'appellent maison de prière. Mais nous, de vie, c'est-à-dire, on se rencontre, on s'aime, on s'écoute, on s'encourage et on se pardonne aussi, on s'entraide. Et voilà, il est clair que cet endroit est un peu à l'abandon, quasiment en ruine. Il reste les murs, il reste une toiture qui devient tout doucement caduque, et il y a eu beaucoup de dégâts dans cette maison. Nous avions mis une clôture, des belles barrières, on nous a volé les barrières, j'ai ôté les dernières qui sont stockées chez nous, à la maison, et on a abîmé beaucoup de choses. C'est comme si on voulait se moquer de nous et nous décourager. On a accumulé des ordures, des poubelles, de tout, des pneus, quasiment c'était vraiment maléfique. C'était vraiment pour nous insulter, mépriser quelque part. Nous avons toujours tout nettoyé. C'est des centaines d'heures. J'ai déjà fait le total, on a déjà œuvré dans cette propriété pour au moins 7 000 à 8 000 heures de travail. Et il a fallu faire des murs, des clôtures, etc. Et on ne voit quasiment rien de notre travail. Nous n'avons pas peur de l'épreuve, nous n'avons pas peur de l'échec. Et nous demandons au Seigneur de savoir si le 27 février, à l'Assemblée Générale, on votera quelque chose de favorable pour ce projet ou ça sera fini. La lettre de nouvelles qui va être envoyée aux églises, aux chrétiens, parle de ce projet. Dans ce projet, donc, salle de culte, mais d'une manière assez conviviale, pas ostentoirement religieuse, plutôt un centre convivial de prière. Et ensuite, une exposition biblique permanente. Il y a des amis à Mandela Jolie qui ont une belle exposition biblique, qui cherchent obstinément à la placer quelque part. Ils ont passé des années à la créer, voilà. Pourquoi pas là? Deuxième chose, un centre où il y a des livres chrétiens, une bibliothèque, où, moi, d'autres, on peut guider les gens pour acquérir une connaissance, une culture biblique. Car c'est cela qui manque le plus dans nos régions ici. Un substrat culturel, solide, profond, où la géographie et l'histoire nous montrent les fondements, l'inhérence de la parole de Dieu. Ensuite, il faut un dépôt de livres de maisons d'édition biblique pour les vendre. Car parfois nous avons fait des expositions bibliques, nous avons vendu des livres de plusieurs milliers d'euros. Il y a un intérêt pour les livres chrétiens, alors qu'il n'y a pas grand-chose dans la région, il n'y a rien. Et bien sûr, des livres sérieux, fidèles à la parole de Dieu, triés sur les volets. Alors, il y aurait bien sûr, évidemment, une permanence, un couple ou une personne qui doit être là, qui doit veiller au grain et avec un système de surveillance la nuit. Et évidemment, dans tout cela, nous n'avons pas l'argent pour le faire. À mon avis, tout ce projet vaut 500 000 euros au BAMO. Mais nous aurions l'idée que nous pourrions déposer des containers scolaires, des containers comme de certaines écoles en Belgique lorsqu'elles ont trop d'élèves. Elle place à côté de l'école des containers qui sont bien éclairés, chauffés, isolés, et il y en a même avec la toilette, etc. Nous pourrions avoir 2 containers couplés pour pouvoir mettre 40, 45 personnes. Ça serait pas mal pour commencer. Et un container aménagé pour mettre 1 ou 2 habitants sur place pour surveiller avec un chien. Et puis, nous placerions dans la propriété un des groupes électrogènes que nous avons depuis 10 ans, qui est destiné à ça, pour fournir du courant en permanence, surtout la nuit, pour que des systèmes, des caméras, des systèmes des spots s'allument. Donc nous avons déjà ces groupes électrogènes sur des remorques modernes, bâchées, en ordre de marche. Voilà. Pour ce projet intermédiaire, si vous voulez, de containers et tout ça, je pense que il faut un permis de bâtir, il faut des démarches administratives, et sans doute qu'il faut, je ne sais pas dire, j'avais cherché il y a de ça quelques années, j'avais trouvé des containers pour 8 à 10 000 euros, convenables. Bon, maintenant, les prix ont peut-être augmenté, mais pratiquement, avec des démarches administratives et tout le reste, peut-être qu'on arriverait à 25 000 euros. Toujours est-il que ce projet est dans notre cœur et que la lettre de nouvelles en parlera. Et que j'en parlerai régulièrement dans nos messages tout ce mois-ci. Pourquoi? Parce que la population française souffre de cet athéisme forcené qu'on lui impose. Et dans le climat du Covid, c'est encore pire. Alors, il est bon de compatir aux frères et même aux personnes non chrétiennes de France. Beaucoup de personnes, quand je les rencontre à droite et gauche, sont ouvertes. En bon cœur. Et cet endroit, il y a été un endroit à dancing, mais comme à l'ancienne, Valmusette, etc. C'est pas une maison louche. Et c'était, il y a eu pendant 50 ans, des milliers de Français qui sont venus. Tout le monde connaît cet endroit sous le nom de Robin-des-Bois. Robin-des-Bois. Alors, chers amis, je ramène cela à votre prière. Je vous demande de prier pour cela, qu'on ait un miracle avant le 27 février pour l'Assemblée Générale. Et je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour l'école au Pakistan. À l'heure d'aujourd'hui, dans le village de Saïd, nous avons pu arriver, ce mois-ci, à avoir les 105 enfants du village à l'école. Jusqu'à il y a quelques semaines, nous n'en avions que 75. Parce que nous n'avions pas assez d'argent pour nourrir tous ces enfants à midi, pour leur fournir des cahiers et pour avoir le personnel, c'est-à-dire les institutrices. À l'heure d'aujourd'hui, depuis ce mois-ci, nous pouvons subvenir aux besoins de Alina, 22 ans, et Aïra, qui a 24 ans, qui sont institutrices. Et figurez-vous qu'il y a une troisième fille qui est institutrice aussi. C'est vraiment une grâce. Ça me touche. Quand je parle avec elle, avec le pasteur, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que nous avons trois filles engagées pour le Seigneur aussi ici, qui sont à peu près, conduites de la même façon par le Saint-Esprit, et qui ont un projet d'école. C'est réellement quelque chose de formidable d'être en parallèle, de marcher de l'avant ensemble. Et donc, il y a cinq autres villages qui n'ont pas d'école, les enfants n'ont pas de repas, ils travaillent toute la journée, 15 heures dans la boue, par tous les temps, à faire des briques. Ici, dans le village de Saïd, c'est 5 heures à l'école, 5 heures à faire des briques. Et il est clair que si les enfants vont à l'école et obtiennent une formation scolaire, ils vont sortir de l'esclavage. Je me rappelle de ce qui s'est passé chez nous en Belgique quand j'étais petit. C'est l'école qui a permis la promotion des familles. C'est l'école qui a permis à chacun de trouver un mode de vie plus digne. Bien sûr, j'ai demandé à Saïd tout à l'heure si les personnes se décourageaient vu le climat avec le Covid, la difficulté de vivre là-bas. Eh bien, non, les chrétiens adultes, les enfants, tout le monde vient aux réunions de prière et tout le monde est fervent, personne n'abandonne la foi chrétienne, personne ne se tourne vers l'islam. Alors j'ai conseillé à Saïd de lire les psaumes 56 et 57 dans la communauté qui compte à peu près 220 adultes dans son village et pas mal d'enfants, 105, plus les adolescents, on peut compter 400 personnes. Donc, j'ai demandé qu'il lise aussi dans les autres communautés, les autres villages où il va, les mêmes psaumes, en leur disant que je les aime et que des chrétiens de France, de Belgique les aiment, et que nous prions pour eux. Et voici le psaume 56. Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains. Hymne de David lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Donc, un lieu fortifié, Philistin. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Vous comprenez pourquoi j'ai programmé ces deux psaumes que j'ai demandé, j'ai vraiment insisté. Ils les lisent en leur disant que c'est de ma part que je demande qu'on les lise. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. que peuvent me faire des hommes. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce. Vous avez vu? La clé, la force, la puissance de la foi, c'est l'action de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Lumière des vivants, la résurrection. Psaume 57. Au chef des chants, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. J'étais très heureux d'aller visiter cet endroit, à En-Gedi, au bord de la mer Morte. C'est formidable d'être là. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Pensez bien que là-bas, tous les gens qui les entourent se font appeler les seigneurs de la terre. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ah bien, chers amis, ça, si c'est pas la foi, n'est-ce pas? Eh bien, voilà le message que j'ai demandé, que je l'ai supplié, Saïd, de le lire à tous les chrétiens dans les 5-6 villages qu'il visite. Alors, vous allez me dire, oh, nous sommes Européens, c'est bien beau tout ça, ils sont en train de souffrir et tout ça, quand est-ce que leur cauchemar va finir? Hein? Ça peut-être encore durer un siècle ou deux. Écoutez, chers amis, les Hébreux sont sortis d'Égypte par Moïse. Eh bien, ces gens du Pakistan et d'autre part, puisque Porte Ouverte dit qu'il y a 380 millions de chrétiens durement éprouvés, eh bien, je vais vous dire, le nouveau Moïse, ce sera Jésus-Christ et sa venue. Et là, clairement, la puissance de Christ se révélera. Là, on ne prendra plus Jésus-Christ pour un nigaud, pour un petit sous-fifre de Nazareth, un petit Jésus de la crèche, ou un cadavre sur un morceau de bois croisé. Là, dans son éclat et sa majesté, il va établir sa justice et sa sainteté. Il entend les cris des malheureux de la planète. Il entend les âmes qui souffrent. Il entend les cris de ceux qui ont donné leur foi en lui. Alors, j'ai trouvé un exemple flagrant pour nous ici, en France. Un exemple chaleureux et exemplaire. Exemplaire d'un ami qui est pasteur. Comme il l'a imprimé sur des feuilles et qu'il distribue ça partout, je me suis dit que ça valait la peine aujourd'hui de vous montrer, de vous faire entendre ce témoignage d'un ami qui s'appelle Jean-Jacques, pasteur à Anglette, tout dans le Pays Basque. Avant 1993, j'ai grandi dans une famille russe orthodoxe pratiquante. L'orthodoxie, c'est un peu comme le catholicisme. On m'a toujours dit que j'étais orthodoxe et je l'ai cru. De temps en temps, je posais des questions sur Dieu, sur Jésus et sur ce qu'on faisait à l'Église. Je cherchais à comprendre pourquoi nous faisions ce que nous faisions. Mais les réponses étaient peu convaincantes, du genre « c'est comme ça ». Je n'ai pas cherché davantage. Après mes études d'ingénieur, j'ai travaillé à Paris, puis à Amsterdam. Le travail que j'avais était passionnant et je m'y suis investi à fond, travaillant plus de 12 heures par jour, mais je n'étais pas vraiment heureux et je vivais dans la débauche. Un jour, en 1991, épuisé, j'ai consulté un médecin, puis d'autres, Après plusieurs examens et analyses de sang poussés, on m'a soudainement annoncé que j'avais un cancer de la moelle osseuse, qu'il a toujours. Il se soigne toujours pour le cancer. Il vit avec sa maladie.
C'était en quelle année, ça? 1991
pour les Belges. Mylène, le spécialiste me déclara que selon son expérience, j'avais environ 3 ans à vivre. Ça m'a presque anéanti. Mes croyances ont explosé. Les certitudes que je croyais avoir ont disparu. Je ne savais plus quoi penser. J'ai commencé à me poser des questions. D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? C'est injuste. Je pensais, j'étais persuadé que j'étais victime d'une injustice abominable. Alors, nous qui sommes pète ou trotte, comme on dit, toujours inquiets avec le Covid, là, ici, c'est une affaire sérieuse. Un cancer qu'il a depuis ces années-là et qu'il vit toujours avec. Il va en dents de scie, qui remonte, qui redescend, et il vit avec dans la foi. Il résiste et il sert. Ma rencontre avec Jésus-Christ, 4 ans plus tard. J'ai rencontré à Paris un jeune homme qui s'est présenté en disant « Je m'appelle Frédéric, je suis un chrétien né de nouveau. » Je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis il me dit « J'ai rencontré Jésus personnellement, pas physiquement bien sûr, j'ai lu sa parole, j'ai cru et je me suis repenti de mes péchés. Et Dieu m'a pardonné, il m'a sauvé, il m'a totalement transformé. Tout ce qu'il me disait sonnait juste. Il ne se vantait pas, il parlait humblement et il donnait toute la gloire à Jésus-Christ son sauveur. Je n'avais jamais entendu pareille chose. Frédéric m'a proposé de chercher ensemble dans la Bible des réponses à mes questions. Moi, je n'avais jamais pensé à chercher dans la Bible des réponses à mes questions. J'avais une Bible, mais je ne m'y intéressais pas. Frédéric avait une Bible avec un genre d'index des mots de la Bible qui permet de trouver des passages sur n'importe quel sujet. C'est ce qu'on appelle une concordance. Nous avons passé quelques heures ensemble et j'ai découvert des choses que je n'avais jamais lues ou même entendues dans mes contacts fréquents avec des prêtres orthodoxes et catholiques. C'est alors que pour la première fois de ma vie, j'ai compris que j'avais transgressé les commandements de Dieu, que j'avais offensé mon Créateur, j'avais menti, volé, déshonoré mes parents, commis l'adultère en pensée et en acte, convoité tant de choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai lu que Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Ces paroles m'ont puissamment touché. J'ai aussi découvert que Jésus m'a tant aimé qu'il a pris à son compte mes péchés sur la croix, qu'il a reçu à ma place le châtiment que je méritais, pour que je puisse être sauvé par la repentance et la foi en lui, et qu'il est ressuscité. Dans mon enfance, j'avais appris que Jésus était le sauveur, qui était mort et ressuscité, mais cela n'avait jamais changé ma vie. En fait, je ne savais pas que Jésus était mort pour mes péchés. Moi, qui s'était offert en sacrifice à ma place, par amour pour moi, afin que je puisse être légalement pardonné mes péchés par la foi en lui. Et je ne m'étais jamais adressé à lui pour lui demander pardon pour mes péchés. Puisqu'on m'avait toujours dit que j'étais chrétien depuis mon baptême reçu lorsque j'étais bébé. Je me souviendrai toujours de ce jour-là où, avec Frédéric, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu par moi-même. C'était le jour de mon anniversaire en 1994. Je me suis humilié devant Dieu que je ne voyais pas. J'ai reconnu tout le mal que j'avais fait dans ma vie et de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus de me pardonner, de me sauver. Il l'a fait instantanément selon ce qui est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains, chapitre 10, verset 13. Immédiatement, j'ai su qu'il m'avait pardonné. Qui plus est, on m'avait toujours dit que j'étais chrétien parce que j'étais baptisé. Mais en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert qu'on ne naît pas chrétien, qu'on ne devient pas non plus chrétien par un baptême, mais qu'on le devient par un choix volontaire et personnel. En fait, la foi en Jésus-Christ naît de l'écoute ou de la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu alors suscite la foi dans le cœur de celui qui la lit, qui l'écoute, avec un cœur bien disposé. Vérifiez par vous-même. Romains chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 12, verset 2. Personnellement, c'est parce que j'ai lu par moi-même que j'ai cru. En d'autres termes, c'est après avoir considéré les faits sur la personne de Jésus-Christ et sur son engagement, son œuvre, rapportée par les témoins oculaires, les apôtres, que j'ai pu, en connaissance de cause, placer ma confiance, ma foi en lui. J'ai découvert, désormais, non pas une autre religion ou une meilleure religion, mais une relation directe et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ son Fils, seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Ma vie, qu'est-elle devenue depuis ma conversion? Ce jour-là, Dieu a changé mon cœur, selon les Écritures, et le poids de culpabilité qui pesait sur mon âme, mon cœur a disparu instantanément. Ce fut la paix. Ce n'est que quelques jours après que j'ai découvert dans la parole de Dieu que c'est ce que Dieu fait lorsque quelqu'un se met librement, sincèrement, en règle avec lui, sans autre intermédiaire que Jésus-Christ. Chers amis, j'arrête un instant la lecture. Tout à l'heure, je venais dans ma voiture, un jeune homme qui a entendu la parole de Dieu chez nous et que ma femme a enseigné l'après-midi. Mais je lui dis, est-ce que tu as la paix? Non, je ne l'ai pas encore. Je sais que je ne suis pas encore passé de l'autre côté, il m'a dit. Ce cher jeune homme, je ne suis pas encore passé de l'autre côté. Je n'ai pas passé le cap. Je le demande, j'y aspire. Mais c'est Dieu qui va le faire. Un jour, il va te donner sa paix. Sa vraie paix. Tous les tourments de ton âme vont disparaître. Et tu vas recevoir la paix et la vie divine. C'est cela, être naître de nouveau. Eh bien, je l'ai quitté, bien sûr. Je dis, demain matin, je viens te chercher. Et je vais travailler avec lui. On aura l'occasion, on va faire du bois, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, moi, j'aurais besoin de me reposer parce que je suis un vieux papy. Et que ma femme va le prendre trois quarts d'heure dans la Bible et elle va cheminer dans la parole de Dieu avec lui. Chers amis, vous qui m'écoutez, tout le monde n'est pas au même stade. Je vois qui écoute, qui regarde. Il y en a qui commencent à s'intéresser à la parole de Dieu. Il y en a qui se demandent pourquoi d'ailleurs ils m'écoutent. Ils savent pas encore pourquoi. Ils sont poussés à le faire. Puis d'autres sont déjà chrétiens depuis de longues années. Et ils écoutent, et ils veulent encore se nourrir, toujours, de la parole divine, par le Saint-Esprit. Chers amis, ce jeune homme, il s'appelle Dylan, priez pour lui. Mais combien de personnes dans notre société ont besoin de la paix de Jésus-Christ? Aujourd'hui, plus que jamais depuis qu'il y a le Covid, ça peut être salutaire la situation. C'est pas tellement la maladie qui importe. Lisez Job, chapitre 33. Dieu parle tantôt par la souffrance, par un songe, par une vision, etc. Il est nécessaire que nous soyons secoués, car nous sommes des pantouflards, et souvent nous sommes des menteurs et des lâches, et nous restons dans notre bourbier, dans notre péché. Il faut des secousses. Dieu nous aime, et il procure des secousses. Parfois même, de terribles secousses. Je continue à lire le témoignage de mon ami Jean-Jacques. Dieu m'a donné la soif de lire sa parole tous les jours, ce que je n'avais jamais eu avant. Il m'a donné une paix que je ne connaissais pas et dont je n'avais jamais entendu parler. Il m'a donné la certitude qu'il m'a sauvé en mettant son esprit en moi. Comme Frédéric, je suis né de nouveau spirituellement, désormais. Je suis devenu chrétien, librement. Conformément, non à une religion imposée, une religion de routine, de tradition, mais conformément aux Écritures. Mes amis et mes proches ont vu un grand changement en moi. En effet, je ne voulais plus mentir, ne plus rien cacher, ne plus voler, ne plus tromper, ne plus abuser. ma vie était merveilleusement transformée. Vous savez, quand quelqu'un a entendu la parole de Dieu et qui n'a pas encore passé de l'autre côté, qui n'a pas la paix de Dieu, il se rend compte que c'est tous ses péchés, il y a des chaînes, il est englué et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est ce que ce jeune homme me disait dans la voiture tout à l'heure. Eh bien, quand le Seigneur délivre quelqu'un, il le fait complètement. Et c'est ce que le témoignage de Jean-Jacques veut vous faire comprendre. Et je m'en réjouis parce que c'est un frère dans la foi et dans le ministère. Bien qu'on soit à 1200 km l'un de l'autre. J'ai trouvé une petite assemblée de vrais chrétiens à Anglette qui connaissent et aiment Jésus et sa parole, où j'ai beaucoup appris. Puis j'ai fait 3 années d'études pastorales dans un institut biblique à Algrange, près de Thionville. Et j'y ai rencontré Valérie, qui était une jeune fille chrétienne. Elle est devenue mon épouse. Elle a connu Jésus-Christ comme son sauveur personnel lorsqu'elle avait 5 ans. Ses parents ne lui ont pas donné, pas imposé une religion. Ils l'ont instruite selon la parole de Dieu. Et c'est très tôt qu'elle a compris qu'elle avait transgressé les commandements de Dieu et qu'il lui fallait se mettre personnellement en règle avec son Créateur. C'est simple. Et elle l'a fait. Son cœur a été changé et elle a reçu le pardon de Dieu parce que Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, verset 14. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11, verset 25. Aujourd'hui, je sais que la Bible est le best-seller dans le monde entier, surtout hors de notre hexagone, de la France, et que beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont fait cette même expérience du salut après avoir lu ou entendu la parole de Dieu. Entre 2008 et 2011, j'ai été très malade avec mon cancer, plusieurs fois sur le point de mourir. Mais dans cette épreuve, j'ai été fortifié dans la foi et j'ai pu parler de Jésus à de nombreuses personnes. Ma vie est dans sa main et je lui rends gloire de ce qu'il m'ait donné l'occasion de me mettre en règle avec lui avant qu'il ne soit trop tard et de ce qu'il ait merveilleusement transformé ma vie. C'est important, vital. Il est écrit ceci. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux, chapitre 9, verset 27. On ne m'avait jamais enseigné cela dans les deux religions chrétiennes dans lesquelles j'ai grandi. Et je ne savais pas non plus que Dieu nous avertit qu'il est impossible de changer d'avis après la mort. Et vous, savez-vous ces choses? Les avez-vous lues par vous-même? Je vous encourage à le faire car ces choses sont sérieuses. Que l'on croit ou non, ce que Dieu déclare ne change pas la réalité. La mort surviendra, peut-être demain, de façon inattendue, comme nous le voyons souvent autour de nous. Puis il sera trop tard pour changer d'avis et se mettre en règle avec Dieu. Les jeux seront faits pour l'éternité. Vous êtes-vous mis en règle avec votre Créateur? Dieu ne force personne à lire ou croire ce qu'il a fait écrire dans la Bible pour notre instruction. Il est un Dieu de liberté. Il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Il ne m'a pas forcé à le croire. Je ne désire pas non plus vous forcer à croire ce que vous ne voulez pas croire. Vous êtes maintenant simplement informé. Vous pouvez vérifier ces choses à votre gré. Cependant, réalisez que vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Mai 2013. Et notre cher frère est toujours là. Et bien sûr, il a été au bord de la mort plusieurs fois. Je vais vous dire une chose. Quand on est au bord de la mort, on est toujours dans la vie. Et quand on est en Christ, même si on voit la mort là, c'est pas grave. Parce que Christ est la vie éternelle. Christ est la vie. Christ est vie. Il n'y a rien à craindre pour celui qui a donné sa vie à Christ. Chers amis, Je vais vous lire une autre feuille que ce frère a fait, a écrit. C'est capital. Pourquoi j'ai choisi cet exemple de Jean-Jacques Chaloushenko? Parce que cet exemple de chemin de souffrance est dans nos pays. Et le chemin de souffrance de ses frères au Pakistan, en Irak, c'est pas de la blague. Et ils vivent dans la foi, dans une grande foi. Et ils ne renoncent pas à Christ. Alors nous, chers amis, réveillons-nous. Rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 5, Paul le dit à Éphèse, « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. » Il y avait un problème dans cette église. Faisons gaffe. Faisons gaffe. Alors voici un autre témoignage, une suite. Je ne sais si vous êtes déjà trouvé face à la souffrance, la vôtre ou celle d'autres personnes. Mais il est clair que tôt ou tard, nous sommes tous confrontés à la souffrance. Nous voyons la souffrance et il nous arrive de l'expérimenter, qu'elle soit physique ou émotionnelle. À l'âge de 33 ans, alors que j'avais un travail passionnant en tant qu'ingénieur international, j'ai découvert que j'avais un cancer, un méchant cancer, le cancer de la moelle osseuse, encore appelé myélome multiple. Cette découverte fut un choc terrible qui bouleversa ma vie et ébranla complètement toutes mes convictions. C'est d'ailleurs à partir de cette expérience que j'ai réalisé que lorsque nos convictions, nos croyances n'ont pas été testées dans les épreuves, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Autrement dit, ce n'est pas dans les moments paisibles de la vie quotidienne qu'on apprend les leçons profondes. Les leçons de la vie s'apprennent dans les efforts et les épreuves. Les générations précédentes l'ont découvert et nous devons le découvrir aussi. Alors, tout comme je me suis posé beaucoup de questions sur la souffrance, lorsque le cancer m'a frappé, peut-être vous demandez-vous vous-même pourquoi nous, humains, nous souffrons? Quel est le sens de la souffrance? Pourquoi la souffrance dans la vie? J'avoue que j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, sans trouver de réponse vraiment satisfaisante. J'ai aussi posé ces questions à beaucoup de gens et je n'ai pas trouvé de réponse vraiment convaincante jusqu'au jour où j'ai ouvert le bon livre qui en parle. Depuis, je partage simplement ces choses et le dialogue qui suit est un exemple de conversation que j'ai régulièrement. Voici donc un dialogue écrit par Jean-Jacques suite à tous ses contacts. Jean-Jacques, bonjour, comment allez-vous? Monsieur Dupont, un peu agressif, bougon, pas terrible aujourd'hui. Jean-Jacques, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dupont, vous ne voyez pas mes jambes? Je ne les ai plus. Où est-il le bon Dieu? Où est-il votre Dieu tout-puissant? Jean-Jacques, s'approchant humblement, je vois bien, je ne veux pas être indiscret, mais que vous est-il arrivé? Monsieur Dupont explique avec véhémence, on est en France, n'oubliez pas. Avec le diabète, on a dû me couper des doigts de pied, puis cela a progressé vers les jambes. Une infection s'y est mise, et voilà, on a été obligé de m'amputer les deux jambes, d'une voix étranglée. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. Jean-Jacques, posant la main sur l'épaule de M. Dupont, doucement, et gardant le silence. C'est pas moi qui ai toussé, hein. Non. C'est à 2 kilomètres de chez nous. Jean-Jacques, humblement, après un moment de silence, puis-je vous poser une question? Monsieur Dupont, dans un soupir, oui, allez-y. Jean-Jacques, lentement, est-ce que vous comprenez le sens de la souffrance dans la vie? La souffrance, la vôtre, celle des gens dans le monde entier, a-t-elle un sens pour vous? Monsieur Dupont, ça ne devrait pas exister. Jean-Jacques, avec douceur, continue. C'est vrai, on préférerait tous que la souffrance n'existe pas, mais elle existe, et nous devons vivre avec. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions sur la souffrance. J'ai cherché Et vous savez ce que j'ai trouvé ?
Monsieur Dupont,
non, dites-moi.
Jean-Jacques,
Dieu dans sa parole, la Bible, nous révèle beaucoup de choses sur la souffrance, mais il ne nous révèle pas tout. Par contre, Dieu nous révèle qu'il permet la souffrance, et c'est ce que nous voyons. Il révèle aussi qu'il utilise la souffrance pour nous attirer à lui.
Je ne le savais pas moi-même, cher monsieur. Personne ne m'avait jamais dit ça.
Jean-Jacques continue. Et nous les hommes, croyants ou pas, nous avons généralement deux attitudes possibles face à la souffrance. Soit nous nous révoltons et rejetons Dieu, soit nous crions à lui, parce que s'il existe, il est dans beaucoup de cas la seule solution qui nous reste. Je connais de nombreuses personnes qui se sont trouvées dans une situation désespérée et qui ont choisi de crier à Dieu. Dieu, si tu existes, interviens, sauve-moi, aide-moi. Et Dieu est intervenu. Moi-même, je me suis trouvé dans une situation terrible avec mon cancer. Je n'avais plus de force. J'étais mal. Je ne savais si j'allais me réveiller le lendemain. J'ai pleuré et de tout mon cœur, j'ai demandé à Dieu de m'accorder la grâce de pouvoir demeurer auprès de mon épouse et de mes jeunes enfants jusqu'à leur âge adulte. Puis étonnamment, je me suis endormi. Le lendemain, j'allais doucement mieux, puis de mieux en mieux, ce qui a beaucoup étonné mes médecins. C'était il y a 6 ans.
Monsieur Dupont écoute, très étonné.
Il ne dit rien.
Jean-Jacques,
Monsieur Dupont, Dieu utilise sa souffrance pour frapper à la porte de notre cœur, pour nous attirer à lui. Parce qu'il révèle dans sa parole que le plus important, ce n'est pas la souffrance.
Monsieur Dupont répondit,
c'est la mort, bien sûr.
Jean-Jacques répondit,
non, ce n'est pas la mort.
Il y a quelque chose qui est plus important aux yeux de Dieu que la souffrance et la mort.
Savez-vous ce que c'est ?
Monsieur Dupont,
non, dites-moi.
C'est ce qui vient après,
car il est écrit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
C'est parce que Dieu sait qu'après la mort vient le jugement et qu'il utilise sa souffrance pour attirer notre attention.
Vous et moi, nous savons que nous mourrons, mais nous ne savons pas quand, et Dieu nous révèle qu'après la mort vient le jugement, son jugement.
Il révèle aussi qu'après la mort, on ne peut pas changer d'avis.
Vous savez, Monsieur Dupont, si on réfléchit à ces 3 choses,
1, la mort surviendra, mais on ne sait pas quand.
Nous avons plein d'exemples autour de nous.
2, ensuite vient le jugement.
3, après la mort, on ne peut plus changer d'avis.
Alors, nous voyons qu'on n'a pas droit à l'erreur et qu'il faut se mettre en règle avec Dieu le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard.
Chers amis, j'interromps la lecture du témoignage de Jean-Jacques. Vous avez un grand philosophe en France. Vous savez que vous êtes, pour la plupart, vous êtes français à m'écouter. Vous avez un grand philosophe qui s'appelle Pascal et qui était confronté à cet esprit obstiné et têtu des Français. Et dans les pensées de Pascal, il crée tout un plaidoyer, comme Jean-Jacques, pour croire en Dieu. C'était un génie, Pascal. C'était un homme génial, à tout niveau, au niveau mathématique, au niveau de tout ce qui est mécanique. C'est lui qui a inventé la première machine à écrire, par exemple. Pascal a écrit de nombreux livres. Il a écrit beaucoup, il a fait beaucoup de découvertes au niveau de la physique, de la chimie. Alors, pourquoi ne parle-t-on jamais de Pascal ? On a un parti pris en France. On veut éteindre la parole de Dieu. On veut éteindre ce qui peut nous amener la vie éternelle. Mais pourquoi donc ? Continuons le témoignage.
de Jean-Jacques. Jean-Jacques répondit à M. Dupont, « Savez-vous comment on se met en règle avec Dieu ?» M. Dupont, pensif, dit « Non. Voulez-vous savoir comment on se met en règle avec notre Créateur ?»« Peut-être bien, oui, je veux bien. » Dieu nous a donné 10 commandements pour que nous puissions nous comparer, non à des hommes, mais à sa perfection, et découvrir notre état spirituel devant lui. En voici 6. « Honore ton père et ta mère. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point. » Par ces commandements, Dieu nous fait découvrir que nous l'avons tous offensé personnellement et que sa condamnation sera juste à notre égard. La mort sera suivie d'une ruine éternelle. Mais Dieu, cher Monsieur Dupont, votre Créateur désire vous sauver. Il vous aime. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il prenne sur lui, sur la croix, vos transgressions, vos fautes, vos péchés et les miens. Et il a destiné son Fils Jésus-Christ à subir à votre place le juste châtiment que vous méritiez, que vous méritez. Puis Dieu a approuvé ce sacrifice qui vous sauve. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Dieu a approuvé ce sacrifice. Il était suffisant pour votre salut et nécessaire, Monsieur Dupont. Pour vous mettre en règle avec Dieu, avouez-lui vos transgressions, abandonnez-les, placez votre confiance, c'est-à-dire votre foi, en Jésus-Christ seul. Il vous accordera sur le champ son pardon, il mettra en vous son témoignage, preuve que vous lui appartenez désormais. L'indice d'un bon témoignage, la présence de Dieu en nous, c'est qu'à un moment donné, on est libéré de l'angoisse, libéré de la culpabilité, libéré des chaînes, libéré de l'impossibilité d'accomplir la volonté de Dieu. Et on a la paix. On devient enfant. On naît de nouveau. On devient enfant de Dieu, par pure grâce. C'est ce que j'ai dû expliquer tout à l'heure dans la voiture à ce jeune homme qui était avec moi qui a 25 ans. Mais pour vous aussi, chers amis, c'est très important. Je sais parmi vous qu'il y en a qui n'ont rien reçu dans leur famille, dans leur église, d'enseignement clair au niveau biblique, au niveau divin. Prenez courage. Votre Créateur vous aime et veut vous sauver du jugement à venir. Il veut vous sauver de la condamnation éternelle, ce qu'aucune religion ne peut offrir. Aucun baptême ne peut l'offrir. C'est pour cela que Dieu utilise sa souffrance pour attirer notre attention vers lui. Dieu ne force personne, il nous informe. Il nous a créés libres et il chérit et respecte notre liberté. Il ne changera pas les règles pour personne. Dans votre situation, je vous encourage à méditer ces choses, à crier à Dieu et à placer votre foi en Jésus-Christ. N'attendez pas, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait, ni s'il y aura un lendemain. Voilà l'exemple clairement d'un témoignage comme pour vous, si vous êtes chrétien, vous pouvez l'apporter aux autres. Il sortira de votre cœur facilement. Le Saint-Esprit vous aidera à parler comme ça.
Non, je voudrais dire quelque chose. Il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Alors, pour vous, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, le début de psaume 61 dit ceci. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Pourquoi du bout de la terre? Je suis tellement loin de toi, mon Dieu. Je ne te connais pas encore, mais je sais que tu existes. Vous voyez? Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi en Christ. Conduis-moi dans le salut de Christ. Mais je ne veux pas l'atteindre par moi-même. Seigneur, c'est toi qui dois venir. Opérer ta grâce en moi. C'est toi qui dois me mettre dans le rocher, dans le creux du rocher. C'est toi qui dois m'établir en Christ. Le salut est l'œuvre de Dieu. Il n'est pas une œuvre sentimentale, psychologique, une œuvre d'une religion. Lisez le psaume 61. Je voudrais, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Mais quel est l'ennemi? C'est d'abord mon péché, mon passé, mes offenses. Comment régler cet ennemi qui en moi me ronge et qui m'ôte la paix? Parce que j'ai tout d'un coup découvert au contact de chrétiens, découvert en entendant la Bible, que ça existe dans ma vie. Je suis rongé. Il est clair, mais quand je rencontre des personnes, même souvent, nous les fréquentons des années, des mois, nous ne pouvons pas les amener à Christ. Souvent, nous les avons mis dans une situation où il passe un chrétien, une chrétienne chez nous, et puis tout d'un coup, cette personne prie, parle avec la personne que nous avons aidée, enseignée, et puis la personne accepte Christ. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas plus à Gomerie que chez vous. Il n'est pas plus dans ma main que dans la vôtre. Il est dans la main de Christ, le salut. Et Christ s'occupe de tous les pécheurs par le corps de Christ, par l'ensemble des chrétiens. Il n'y a jamais un spécialiste qui donne le salut. C'est un grave égarement qui est arrivé au IVe siècle dans le bassin méditerranéen, lorsque Cyprien de Carthage, Tunis, a créé le prêtre, que plus tard Augustin a créé les sacrements. C'est le prêtre qui donne le salut. Mais, chers amis, aucun homme ne donne le salut. Quand j'étais prêtre quelques années, et qu'on me demandait de faire l'absolution des péchés à un mourant, je m'y refusais. J'essayais de prier avec la personne, je l'invitais à prier, à se présenter devant Dieu, comme je le fais maintenant. Je ne pouvais pas, c'était moralement, spirituellement, inconvenant pour moi. Mais pourtant, si j'avais écouté les enseignements qu'on m'avait donnés au séminaire catholique, et je les avais absorbés comme du petit lait, j'aurais joué ce jeu de dire « Je te donne, au nom de la Sainte Église, en lieu et place de Jésus-Christ, le pardon de tes péchés. » Mais je ne peux pas, vous ne pouvez pas. Il faut présenter la personne dans la parole de Dieu, dans sa conscience, elle va se présenter elle-même à Christ. Il y a de ça un an et demi, un enfant de 11 ans, très turbulent, est arrivé dans l'école de nos filles. Et après 3 semaines, cet enfant turbulent dont plus aucune école ne voulait, après avoir entendu les enseignements bibliques, les chants, etc., il a dit « Comment est-ce qu'on fait pour donner sa vie à Jésus-Christ ?» Eh bien, ce garçon, qui avait été toujours très perturbant partout dans toutes les écoles, entend dire par nos filles ceci, « Mais dis-le toi-même à Jésus-Christ. » Il s'est prononcé pour Jésus-Christ, avec ses mots à lui, devant les autres enfants et devant nos filles. Personne ne lui a mâché la besogne. Personne ne lui a facilité, ne lui a donné des ritournelles à raconter. Il fallait que ça sorte de son cœur, qu'il le confesse de sa bouche. Eh bien, ce garçon est complètement changé, il vient au culte. Il veut servir le Seigneur dans sa vie maintenant. Dieu soit loué. Le miracle était là. Et il sera toujours là pour tous les hommes qui se présentent devant Dieu honnêtement. Alors, dans le psaume 61, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Eh bien, évidemment, habiter éternellement avec Dieu, c'est le désir de celui qui est sauvé, qui a la foi. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. L'héritage, la vie éternelle, la résurrection, la gloire parmi les saints et les anges. La robe blanche de Christ, la transformation totale par le sang de Jésus. Eh bien, Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom et qui te font confiance. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. C'est David qui dit ça. De quel roi s'agit-il? Jésus-Christ. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Le chrétien sauvé chante le Seigneur, loue le Seigneur. Il a reçu la paix, le pardon, et il aime chanter, louer le Seigneur. S'il ne sait pas chanter, il apprend, et tout d'un coup, il chante. Et la deuxième chose, en accomplissant chaque jour mes vœux, c'est-à-dire, j'ai pris un engagement, Seigneur, de t'aimer, de te servir, de lire ta parole, de la méditer, de recevoir de toi l'instruction, de chercher ta volonté et de la faire dans ma vie. Voilà, en accomplissant chaque jour mes vœux. Chers amis, je vous laisse avec tout ce message. Il est évident que c'est grandiose. La nouvelle naissance de quelqu'un est plus belle que toutes les cathédrales, que toutes les basiliques. Tout ce qu'on a créé en pierre, en vitraux, c'est que des attrape-nigauds pour nous détourner de l'essentiel. Dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, son nom est inscrit dans le livre de vie. Les anges se réjouissent dans le ciel. La gloire de Dieu est déjà déposée sur cette personne, même si elle ne la voit pas. Et la gloire de Dieu va transformer cette personne. Cela est plus exceptionnel qu'une basilique ou qu'un tas de pierres avec des vitraux du Moyen-Âge ou d'une grande abbaye et des bougies et tout le reste. Mes chers amis, nous pour les évangéliques, faisons attention aussi de trop glorifier nos bâtiments et tout le reste. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la maison de prière, c'est pas pour en faire une idole, c'est simplement un instrument d'accueil, d'évangélisation, de on pourra, oui, il fait tellement mauvais, souvent, on pourra accueillir et être à l'aise pour échanger, pour prier et pour enfanter par la parole de Dieu, enfanter d'autres personnes à Christ, sous l'action puissante du Saint-Esprit, dans la volonté du Père. Voilà, chers amis, à bientôt. Je vais peut-être chanter un petit chant, si vous voulez. C'est tellement une joie de lire ce témoignage de Jean-Jacques. Il est si simple, il est si clair. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Le Seigneur veut vous bénir et vous sauver. Oui, priez pour Marie-Hélène. Elle n'est pas bien là. Elle n'est pas bien. Elle a peut-être attrapé un petit virus, mais ça passera, vous savez, avec l'aide de Dieu. Gloire à Dieu, au nom de Jésus.